La parole à Gilles Simon, donc qui est professeur à l'Université de Lorraine, donc qui est l'un des trois facilitateurs, comme on l'a présenté tout à l'heure, et qui va nous faire une présentation sur sa petite histoire de la réalité augmentée en informatique.
Donc effectivement, ça serait bien qu'un informaticien ici donne sa vision des choses par rapport à cette histoire que j'ai vécu en soutien ma thèse en 1999. Thèse intitulée BER, un système de réalité augmentée autonome. Le verre au mono était important, on s'en compte encore aujourd'hui, effectivement, c'est la réalité augmentée aux deux. Sont pas encore complètement atteints. Alors moi, cette histoire, je l'ai présentée au Moyen Âge, à la fin du Moyen Âge, puisque on sait de sources sûres, on a un témoignage de Balestier, qui est architecte, disciple de Brunelleschi.
Il y a la caméra.
Séance et droit. Non, ça, ça.
Pour moi, j'ai dans le bougie. J'étais de recul alors. Bouge mouvement, c'est. Et donc, il nous décrit la première tablette de réalité augmentée, Tavoletta. Tavoletta, ça veut dire un petit panneau. C'est un petit panneau en bois sur lequel le Brunelleschi avait peint le baptistère, donc sur la Veritas San Giovanni à Florence. Et puis, quelques bâtiments de cette place également. Et ce dispositif était assez particulier puisque Brunelleschi avait pratiqué un tronc, un don, au niveau du panneau. Et puis, en réalité, on ne voyait pas directement le panneau, mais on voyait son reflet à travers dont un miroir orienté vers la peinture. Hein, et l'œil qui était passé derrière de la peinture. Hein, donc, on regardait le panneau à travers un miroir. Et puis, on avait effectivement également le reflet de l'œil qui apparaissait sur le miroir. Alors, le miroir était porté à bout de bras, ce qui fait qu'on pouvait le bouger et puis s'assurer de l'alignement entre le réel, hein, ce dispositif était pointé vers le baptistère en se passant à peu près à 2 mètres à l'intérieur de la cathédrale, cette marée d'affaires qui enveloppe du baptistère. Et donc, ouais, en mettant ce dispositif bien orienté, il pouvait voir le réel et puis sur le miroir, le virtuel. Virtuel, ce n'est pas un mot anachronique, un hein, malinage, c'est la cité du malinage qui utilisait ce terme pour dire le réel en puissance. Et à la limite du miroir, vérifier l'alignement entre le réel et le virtuel. Pour moi, c'est parfaitement la réalité augmentée. Alors, ce qui m'intéresse, c'est qu'un peu d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'il a voulu faire avec cette expérience finalement? La plupart des historiens de l'art considèrent d'inventer la perspective ou construction géométrique qu'on commet aujourd'hui, hein, c'est la projection perspective, la projection cubique. Donc sans doute il a voulu montrer que sa construction était capable de construire de représenter donc en perspective des édifices de telle sorte que le dessin soit conforme à la perception humaine et donc superposer les deux éléments. Donc on pourrait penser à une expérience scientifique, voire une preuve scientifique, mais je pense que ça allait au-delà puisque Manetti, d'abord, il dit que c'était vraiment fascinant de voir ce tableau avec les bocaux de bétail très très précis. S'il avait voulu juste montrer que sa construction se superpose à la réalité, il aurait pu juste superposer son chemin, les traits de la géométrie. Là, il l'a peint complètement, de manière très minutieuse. Et puis Manetti explique aussi qu'il avait, pour autant qu'il avait à montrer le ciel, c'est-à-dire pour que les murs peints s'impriment dans l'air, il s'est servi d'argent bruni de façon que l'air et les cieux naturels s'y reflètent, et de même les nuages pouvaient y passer dans cet argent poussé par le vent quand il soufflait. Donc il y a toute une portion du tableau qui était couvert d'argent revenu, c'est-à-dire poli, de miroir en fait, de manière à ce que le ciel réel s'y refait. Pour ça, il était encore moins obligé de le faire, je pense, pour une démonstration scientifique. Donc je pense que c'est de la médiation scientifique. Il a recherché l'effet waouh qu'on recherche tous quand on fait des démos pour la fête de la science, tu présentes le programme de réalité augmentée, on essaie un petit peu d'impressionner le spectateur, voire de l'émerveiller. À mon avis, il y a cette idée-là derrière cette pixar. En tout cas, Magnetti est très élogieux dans sa description de l'expérience. Alors, il y a un élément supplémentaire qui est que, donc, comme je disais, le reflet de l'œil apparaît sur le reflet du tableau. Donc, c'est l'œil du spectateur de partie du tableau. Et ça, je pense, alors là, c'est mon hypothèse, que la thermalité a beaucoup contribué à comprendre les premières lois de la perspective. Magnetti précise que de nombreux peintres ont étudié la thermalité, et donc le pensée à Manco contribuer à comprendre que le point de fuite principal, donc correspondant aux lignes perpendiculaires au plan de tableau, est en face de la vue. Elle correspond exactement à la projection de l'œil dans les tableaux. Et ce qui fait que, un ou deux ans après, quand Masaccio peint cette passe dans l'église Santa Maria Novella à Florence, qui s'arrange pour que ce point de fuite se trouve à la hauteur de l'œil du spectateur. C'est un véritable propre œil.
On pourrait même parler de réalité virtuelle, hein, puisque donc, si le spectateur se met en face du tableau, au beau milieu, il va avoir son œil exactement à la hauteur, à l'endroit du point de fuite, et va avoir la sensation d'immersion, condition d'être à la bonne distance.
Ces petits paramètres à connaître.
Donc on pourrait dire que c'est la réalité au Mans Isaac dans une seule image, mais on a 10 ans plus tard un peintre flamand, William Vanney, qui lui a fait des perspectives à plusieurs points de fuite. Alors Vanney ne connaissait pas la perspective géométrique.
Il a dû utiliser un dispositif optique. Ça, c'est des travaux que j'ai menés récemment.
Mais si on a plusieurs points de fuite comme ça alignés verticalement, ça veut dire que de la vie peint, le dernier, a évolué verticalement en cours d'exécution du tableau. Donc là, on pourrait parler de perspective nomade. Je pense pas que ce soit. Ça a été le but recherché par Van Eyck. Je pense que c'est plutôt pour des raisons nordotratiques. Par exemple, d'après un éton, le champ de vision est réduit. Ou si le miroir n'est pas très loin,
toute la scène ne rentre pas dans le miroir, mais il faut dépasser le miroir en cours d'exécution pour acquérir entièrement la scène.
Mais toujours est-il qu'on se retrouve avec un dessin sous-jacent qui montre de la parallaxe. Quand on assemble ces différents points de vue, c'est ce que fait Peter Manet, vous pouvez voir que le petit pointeur, hop, on a de la parallaxe, c'est-à-dire un décalage
issu du fait que plusieurs points de vue sont représentés dans le dessin sous-jacent au niveau des volets, du chapeau, des yeux, de la robe,
le bas de la robe, etc. Donc c'est finalement quelque chose qui ressemble beaucoup à nos analyses. Tout cas, la journée des analyses, donc à vue gauche, droite, assemblée en une seule image, et on peut filtrer les deux images avec des lunettes. Vous avez sans doute déjà rencontré.
Donc Brunelleschi et Danek auraient pu inventer la séance Loki, ils avaient tout.
Il s'en est fallu peu, peut-être qu'ils avaient travaillé ensemble, ils l'auraient fait.
Il a fallu tout de même 400 ans pour que Gastel, en 1838, invente le stéréoscope, mais avec un dispositif qui est très proche de celui de Brunelleschi. C'est un simple système de miroir. Peu que le miroir soit en face, il est à 45 degrés,
qui permet de projeter une image gauche et une image droite.
Et puis, il faudra encore attendre plus d'un siècle, les années 60,
pour voir les premières images des tubes cathodiques.
Mais pas, parce que c'est pas.
C'était un projet un peu parfumé, rebilé. Mais vous voyez, dès 1966,
on a quelque chose déjà qui s'apparente de près à la réalité augmentée d'aujourd'hui.
C'est Evan Sutherland. Alors, il utilisait certainement le seul ordinateur de l'époque qui était capable de faire ses calculs, un ordinateur de la NASA, pour projeter un cube et l'afficher sur la face de la chaîne des Head Wanted Display.
qui est encore un système de miroir, on est encore pas très loin de Ténécie finalement. Sauf que voilà, c'est des tubes cathodiques qui envoient une image par-dessus la réalité. Et puis, alors lui, son but, c'était pas de faire la réalité augmentée, le terme, il ne sait pas. Il voulait même pas forcément faire correspondre le virtuel avec le réel. Il intéressait, c'était d'avoir des mouvements du tube cohérents et des mouvements de la tête. Et donc, il a également muni son casque d'émetteur, émetteur ici acoustique, avec au-dessus de la tête. Après, il a appelé ce système l'épée de Damoclès, au-dessus de la tête, qui est un dispositif de captation à travers de la triangulation spatiale. Vous pouvez en déduire les mouvements de la tête et les appliquer sur des plus fins. Son propos, c'était de démontrer ce que les psychologues, selon lui, savaient depuis longtemps, c'est que les images en perspective, en mouvement, semblent étonnamment tridimensionnelles, même sans le côté sérieux. Le terme réalité augmentée a été inventé en 1992. En tout cas, il a parlé par la première fois des années plus tard, peut-être en 1992, dans un article écrit par deux ingénieurs de chez Boeing. Il commence par, donc quelqu'un dit un jour qu'un Boeing 747 n'est pas vraiment un avion, mais 5 millions de pièces détachées volant en formation serrée. Et donc, un avion, c'est quelque chose de très difficile à produire avec énormément de pièces, donc des très petites pièces à assembler. Et donc, ce qu'ils expliquent, c'est qu'un robot ne peut pas faire ça encore au derby. Il y a ce truc d'opération d'assemblage dans les avions qu'un robot ne peut pas faire. Et donc, ce qu'il dit, c'est que voilà, si les ouvriers pouvaient accéder directement aux données numériques de CAO, donc accéder directement en affichant les modèles CAO par-dessus la réalité, lors des opérations de fabrication d'assemblage, plusieurs sources de dépenses et d'erreurs seraient limitées. Donc, il présente dans l'article plusieurs exemples de tâches d'assemblage réalisées avec l'ICAS, un HND très fort, je celui de Sutherland, mais bon, 30 ans sont passés, donc on a commencé à avoir quelque chose de beaucoup plus léger et de plus agréable. Et donc dans cet article qui décrit, cette technologie est utilisée pour augmenter le champ visuel de l'utilisateur en lui fournissant les informations nécessaires à son tâche en cours. C'est pourquoi nous appelons cette technologie réalité augmentée. Voilà. Donc voilà la leçon de terme en 1992. Donc, en fait, la réalité augmentée, elle est née de l'incursion de l'industrie. Il y avait un réel besoin de simplifier des tâches d'assemblage dans le processus de fabrication complexe. Et donc, on avait à cette époque des systèmes assez complexes pour justement capturer les mouvements de tête avec donc des capteurs d'acoustique, électromagnétique, voire optique, qui étaient placés autour de l'opérateur. Et puis des émetteurs sur la tête de l'opérateur. Donc, c'est un système assez coûteux, assez difficile à maintenir, à calibrer, etc. Donc, les chercheurs qui se sont intéressés à avoir des systèmes plus simples, en utilisant juste la caméra portée par l'utilisateur et en s'appuyant sur les images acquises par la caméra pour suivre les mouvements de la tête. Donc, en fait, effectivement, à partir d'une photo, si on connaît un modèle tridimensionnel de la scène photographiée, on peut savoir depuis quel point de vue cette photo est prise. À partir du moment où on a des correspondances de points, on a 4 points entre l'image et le modèle 3D. À ce moment-là, si on connaît toute la distance de vue, la distance focale sur un appareil photo, l'œil, la distance entre l'œil du peintre et le tableau pour une peinture, à ce moment-là, ben on sait que les points 3D ne peuvent que se situer sur ces rayons, les rayons inverses, en état, c'est le modèle de projection perspective. Et en réalité, à partir de 4 points, il n'y a qu'une seule solution possible, une seule position et orientation de l'appareil photo, de la caméra dans la scène, qui permet d'avoir cette projection. Donc, le premier à avoir utilisé ce... Bon, il y avait beaucoup de travaux à cette époque, sur les catus du point de vue à partir de fluorescence, de coin 3B, 2B. Différentes méthodes pour résoudre ce problème. Les premiers à l'avoir exploité sont dans un système de temps réel, dont des chercheurs respectivement japonais et américains,
qui ont proposé AR Toolkit, Toolkit de réalité augmentée, basé sur la détection de carrés noirs sur fond blanc, quelque chose à l'époque qu'on savait plus en temps réel. Et donc, à partir de l'élection du coin du Berex dans l'image, appareillé avec tous les coins d'un carré, on peut ouvrir en temps réel, calculer le point de vue de la caméra. Et donc, ça a été décrimé de Pesos pour la conception de produits. Dans le domaine muséal de l'éducation, ça, c'est une démonstration de chercheur en informatique. C'est pas permet de trier chronologiquement un certain nombre d'œuvres sur un mur de manière collaborative. C'était un petit peu une période de martèlement, on va dire. Ça m'a fait penser à la voix du marteau. Vous savez, quand on a t'es la tisse sur un beau marteau, on se met à avoir des coups partout. Et c'est un petit peu ça, cette époque-là.
Alors, 5 minutes, parfois même jusqu'à l'absurde. Il fallait que les marqueurs soient plutôt visibles en champ de bidon. Donc, il est élargir la possibilité de dépassement. Il fallait mettre des marqueurs partout. Ce qui ne pouvait pas se faire
à l'extérieur, simple cas particulier, un petit peu compliqué.
Donc, moi, voilà, j'entends scène à ce moment-là.
C'est un article qui est issu de mon DEA informatique où il s'agissait donc avec le CRE, le Centre de recherche en architecture de Nancy, et le CRE, le Centre de recherche en informatique, lequel vient parce que c'est, s'appelle aujourd'hui le LORIAS, donc d'illuminer par synthèse et avec EDF, d'illuminer par synthèse le pont neuf pour casser du projet d'équerrage. Et donc le CRE est spécialisé par la génération d'images de synthèse avec des éclairages réalistes. Ils nous ont demandé de leur donner fournir les points de vue de la caméra sur toute la vidéo.
Gilles, ton micro est essaie de mettre un peu plus haut.
Ah, où ça? D'accord, merci. Et donc on disposait dans l'architelle, où la pub est encore à son nom du point entre le modèle et la première image, de manière à ce que le modèle se reprojette correctement dans la première image. Toute la difficulté, en réalité, c'était de suivre ces points de manière, pardon, à ce modèle, je projette correctement sur toute la séquence. À l'époque, bon, il y a ces points correspondant à un lampadaire qui sont des ronds blancs sur fond noir, ça se suit assez facilement, mais d'autres points étaient plus compliqués. Donc, à l'époque, on était sur les techniques de SNEX et de le suivi de cours. On avait exploité cette technique. Je vais accélérer un petit peu. Sinon, voilà. Alors, c'était un système qui n'était pas tellement généralisable. C'est plus du tout de mettre ça à la dot. Et quand je suis parti en postdoc, donc à l'université d'Oxford, dans le groupe Visual Geometry, dans Drew Zisserman, j'ai été appuyé à un projet avec la société Milfilm. Donc, la société Milfilm, c'est la société de production d'effets spéciaux Ridley Scott. Et puis, ils avaient travaillé ensemble sur le film Gladiator. Et donc, je suis arrivé dans une équipe où ils travaillaient sur la table. Le structure from motion, le calcul de la structure d'une scène sous forme de nuages de foin, qu'on peut le voir ici, à partir de plusieurs vues. Et on récupère en même temps les coins de vue des caméras, ce qui permet, si on intègre par exemple une affiche au sein du nuage du plan 3D, de reprojeter cette affiche, et là, on va faire des effets spéciaux, ou d'ajouter un étage. Voilà. Alors, pour faire ça, en fait, il fallait pouvoir suivre des points entre images consécutives. On se basait sur l'apparence, une détection de points d'intérêt, et puis autour de chaque point, une petite imagette qu'on essayait de retrouver dans l'image suivante du flux vidéo. Et donc, voilà, c'était pas très robuste. Alors, en post-production, c'est pas grave. On pouvait à la main supprimer les mauvais appareillements, en rajouter d'autres. Mais on ne pouvait pas faire de réalité augmentée avec ça. Donc moi, dans mon postdoc, j'ai utilisé une propriété géométrique qui fait que tous les points de la maison subissent la même transformation géométrique, ce qui permettait d'éliminer les mauvais appareillements et de faire donc du suivi de caméra
temps réel, relativement juste, à condition d'avoir un plan dans la scène. Donc là, on a obtenu le 10 years lasting impact award pour les impacts pour ces travaux, qui en ont suscité d'autres, donc je vais accélérer. Donc ensuite, on a essayé d'avoir des méthodes pour appareiller des points en mettant en variant, en rotation, en changement d'échelle, etc. Donc, on commençait à avoir des choses particulièrement robustes pour faire l'arrêt augmenté sur des magazines, des encyclopédies, qui se sont à vidéo. Voilà. Et puis également sur des tableaux, puisque un tableau est un bel objet plan. Et de la texture, généralement, du point d'intérêt pour pouvoir apparaître facilement avec un modèle.
Voilà. Alors, je vais raconter toute cette histoire. Je trouve que le plus intéressant, c'était le début de cette histoire. Et ces techniques ont évolué. Il y a eu le deep learning, l'apprentissage, une méthode d'apprentissage profond, les réseaux de neurones pour l'outil. Par exemple, de détecter avec pas mal de fiabilité des objets avec leurs catégories. Donc, nous, par exemple, dans l'équipe, en 2020, on a exploité cette possibilité pour appareiller avec en 3D au plus des points, des secteurs très locaux, des objets complets, hein, petits objets comme balise visuelle pour le positionnement.
Donc, ce qui permet de faire des choses comme ça, d'augmenter nos environnements qui contiennent les objets. Donc là, vous pouvez voir ici le point de vue de la caméra calculé au portant réel. Donc, dans le musée des Beaux-Arts de Nancy.
Voilà, donc je vais conclure. Alors, c'est juste ici de le conclure. Pour revenir peut-être au contexte muséal et patrimoine architectural, je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail au milieu de la vision par ordinateur pour avoir des méthodes robustes, des résistances
aux différentes conditions environnementales, la météorologie, jour, nuit et autres.
Donc aujourd'hui, je conseillerais plutôt pour des
applications en archéologie de s'orienter vers un GPS différentiel et puis des capteurs inertiels. Ces solutions existent depuis 2002 et elles fonctionnent très bien.
Pour l'intérieur, alors, le vin tableau. Calculer le point de vue de la caméra à partir d'un tableau, ça marche très bien, mais on ne pourra jamais lutter en vision par ordinateur contre ce phénomène-là.
On est très l'écart de ce qui se passe dans la salle. Hein, si des gens passent devant la caméra, le système de vision plante. Donc je conseillerais plutôt de revenir encore. Il y a des méthodes qui marchent bien, mais donc c'est effectivement pour moi la palme d'or. C'est je reviens à Christian Terre et Sébastien Fauché. Pour leur dispositif de réalité augmentée que j'ai pu tester ici à des cliniques. Je pourrais étudier là. On revient à la vision de Brunelleschi, avec ici à droite le réel, à gauche le virtuel, sur le grand tablet robuste qui ne casse pas, pas pour les lunettes, l'eau. Un seul degré de liberté avec un simple gyroscope pour mesurer ses rotations. Et puis plusieurs personnes doivent se dresser autour de la tablette.
On a un mouvement, hein, si vous rappelez Sutherland, il n'y a pas besoin d'avoir un casque stéréo pour avoir la sensation voyette.
Si on se suivait, voir les choses, on va mettre plusieurs, donc on doit avoir ces manières subjectives. Mais pour moi, c'est le système idéal.
Ouais, ça n'a jamais fini.
Merci beaucoup, Lee.
Donc, on va quand même prendre le temps de quelques questions, si vous en avez, avant d'enchaîner sur la présentation suivante. N'hésitez pas à vous lancer.
Comment vous voyez l'arrivée des casques qui permettent, je dirais, l'AR, hein, BMAR, ouais. Pour vous, c'est un enjeu,
Je ne sais pas du tout. En fait, nous, on a vu passer des Google Dask qui ont un vrai flop.
Oui, Ticket, ça s'est jamais testé.
Alors, bon, nous, déjà, on ne s'intéresse pas à ces problèmes parce que le visio par ordinateur. Mais comme je le disais, nous, par un bout, personnellement, un peu de passe-passe. Hein, tu n'es pas les pensées, j'entends. Et puis, ouais, tu as besoin d'avoir, demandé l'association de l'immersion. Une serve de webcam branchée à un TC, tu as sur TC. Bon, ce genre de DC. Donc, voilà, c'est bien, je suis de loin, je sais qu'il y a un beau cap, mais qui va sortir.
Tout le monde en attend beaucoup, mais bon, on ne voit pas trop.
Non, mais effectivement, moi, j'avais fait dans une autre vie une navigation avec de la Eve. qui était avant et après, c'est-à-dire on a pris des prix toutes les collections de Paris Musée et sur Itexen, puisque les jeunes n'allaient pas dans les musées, donc autant aller là où ils sont, c'est-à-dire sur les Itexen. Et on avait utilisé la réalité augmentée, effectivement, pour faire de l'avant-après la vie d'aujourd'hui et la vie d'hier. Et ça, c'est un véritable moteur engagement qui est extrêmement efficace.
Merci.
Une autre question? Oui? Ce sont les mêmes?
Oui, pour moi, dans la réalité augmentée, il y a l'aspect représentation, figuration picturale, enfin, captation. Connexion aux objets observés. Et puis après, il y a toute la partie aussi ajout de contenu, mobilisation de connaissances, reconnexion et tout ce dispositif, je dirais plutôt cognitif. Comment il est pensé? Parce que j'ai vu qu'il y a une évolution aussi sur cette grammaire de connexion de Kurt Samuelsen.
Et finalement, là, on est dans les usages, c'est...
Ouais. C'est pas du fou ce que c'est né, ça. Nous, culture, on est plus de la loi du marteau, propose des sanctions. Alors, parfois, c'est à la demande d'industrie. C'est beaucoup d'industrie, effectivement, que c'est demande. Et peu, ça prévient les scénarios du bon visage pour en scénarise d'assemblage, de partir en voiture, etc. Eux, ça, c'est leur domaine, finalement. Nous, tout ce qu'on fait, c'est pour permettre de faire cet affichage par-dessus la réalité. En fait.